Merci bien. Donc, on a finalement l'arrivée du fameux poisson, le grand poisson. J'ai mis dans le livret le titre « Le problème du poisson ». Vous pouvez vous demander quel problème. Ce n'était pas un problème pour Jonas, il a été sauvé par le poisson. Tout comme l'Éternel a envoyé la tempête pour arrêter la fuite de Jonas, il a envoyé le poisson pour empêcher Jonas de se noyer. L'Éternel, il est toujours souverain. Il va accomplir ses plans à travers de Jonas, malgré Jonas. Donc le poisson était peut-être un problème pour Jonas. S'il voudrait vraiment s'échapper de l'Éternel dans la mort, s'il préférait mourir qu'obéir l'Éternel. Mais en fait, le poisson est plutôt un problème pour nous. Le poisson est un problème pour nous au point que c'est difficile de croire qu'un homme peut vivre 3 jours dans un poisson. Ce n'est pas difficile si on pense aux images de Jonas dans les livres pour les enfants. Mais une fois que tu commences à réfléchir à la réalité de cette situation, ça commence à être difficile d'imaginer comment c'est réellement passé. Mais pourquoi est-ce que c'est une difficulté? On habite un monde bien scientifique, un monde qui a du mal à accepter ce qui ne peut pas expliquer. On a été formé par un système qui est basé sur les faits scientifiques. Moi aussi, j'ai fait des études en sciences à la fac, donc j'apprécie la contribution de la science, mais il y a des limites quand même. La science est une méthode, un outil pour mieux comprendre ce monde. Ce n'était pas la science qui a créé ce monde. La science n'est pas le créateur. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. C'est lui qui a créé toutes les espèces de poissons. Pourquoi l'Éternel ne peut-il pas créer un tel poisson comme dans cette histoire? Si on n'arrive pas à accepter que l'Éternel a pu utiliser un tel poisson pour ses buts, peut-être on doit revenir au chapitre 1. Si on n'arrive pas à accepter un poisson qui peut préserver la vie d'un homme pendant 3 jours, peut-être on n'a pas accepté l'Éternel tel comme il est. Combien il est plus grand que nos pensées. L'Éternel a une tâche pour Jonas à Ninive. Il ne peut pas être empêché par la fuite de Jonas. Il ne peut pas être empêché par un prophète désobéissant, par un prophète jeté dans la mer pour mourir. L'Éternel va accomplir ses plans. On arrive donc à la situation de Jonas dans le ventre du poisson, où il chante. C'est une réaction normale, j'imagine. En fait, ce texte dit que Jonas prie à l'Éternel, mais ce qu'il prie est en forme de poésie, comme une chanson. Verset 3, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu de ce jour des morts, j'ai appelé au secours. » Et tu as entendu ma voix. Quel mot est-ce qu'il a utilisé en hébreu pour faire appel? Oui, c'est ça, exact. C'est kara, le même mot qu'on a vu 3 fois hier en chapitre 1. Souvenez-vous, premièrement, l'Éternel lui a demandé d'aller crier contre Ninive. Ça, c'était kara. Deuxièmement, la capitaine lui a dit de faire appel à son Dieu. Kara. Troisièmement, les marins, ils se sont adressés à l'Éternel. Mais le texte ne dit nulle part au chapitre 1 que Jonas a crié. Ici, c'est la première fois que Jonas crie. A-t-il changé d'attitude? Suite à son expérience d'être au bord de la mort, est-il un homme renouvelé? Ça, c'est la question pour ce chapitre. Comme les autres psaumes, le premier verset fonctionne un peu comme un sommaire, un résumé du poème entier. Il y a du parallélisme, une répétition avec variation. J'essaie de te faire avancer les diapos. Apparemment pas. Ça n'avance non plus. Je crois que c'est la souris. Ah oui, je suis là. Oh. Ah voilà, ça fonctionne. Merci. Ok, donc verset 3, c'est un résumé. Et comme dans beaucoup de poésie hébraïque, il y a un parallélisme, une répétition avec variation. Donc on peut bien voir, trois fois, c'est la répétition. Oh, c'est difficile à lire maintenant. Il dit, de toute façon, « Dans ma détresse, et puis encore, du milieu du séjour des morts, » ça c'est répétition, variation. Deuxièmement, « J'ai fait appel à l'Éternel, j'ai appelé au secours. » Désolé, encore. « Et il m'a répondu, encore, et tu as entendu ma voix. » Donc, avec ça, ça souligne ces trois sujets qui va développer à travers du poème aussi. Donc premièrement, il dit au verset 4, il décrit la détresse. Verset 4, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. » Et encore au verset 6 et 7, il continue avec la description de détresse. « L'eau m'a couvert jusqu'à mon lever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues sont roulées autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours. » Il utilise des belles images pour faire une illustration vivante de sa situation. Il décrit une situation sans solution. Une situation désespérée où il est vraiment au bord de la mort. Deuxième élément, c'est son appel à l'Éternel. On la voit au verset 5 et 8. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Et encore verset 8. Comme mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Au moment de danger, il a crié à l'Éternel, et l'Éternel a reçu son appel. Troisième élément, la réponse de l'Éternel. Deuxième partie du verset 7. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel, mon Dieu. L'Éternel, il est souverain sur la mer, mais il est également souverain sous la mer. Jusqu'au gouffre, le point le plus bas, l'Éternel est même capable de sauver quelqu'un du milieu de la mort. Comme on trouve souvent dans les psaumes, au verset 9, il ajoute une affirmation générale qui est liée avec sa situation et comment l'Éternel a répondu. Verset 9, « Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. » Puis il promit de faire des sacrifices de reconnaissance pour le salut qui vient de l'Éternel. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Voici le contenu de la prière de Jonas depuis le ventre du poisson. J'ai une question pour vous alors. Mais tout d'abord, il faut fermer les livrets ou les tourner pour ne pas tricher. On a vu qu'il y a cette prière, on a vu cette chanson, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans cette prière? Donc je vous demande de parler avec les voisins. Que manque-t-il dans la prière? Je vous laisse quelques minutes pour parler.
J'ai dit fermé.
Ok, j'espère que ça suffit. Je ne demande pas de réponses pour l'instant, on va continuer. S'il y a des choses qui manquent que je ne cite pas, vous pouvez me dire après. Donc vous pouvez retourner au livret où j'ai noté quelques remarques. Première chose qui me frappe, c'est que Jonas est au centre de la prière. Il raconte moins l'action de l'Éternel et beaucoup plus sur sa situation et ce qu'il a fait. Moi. Tout se tourne sur Jonas. Il est vraiment au centre. Deuxièmement, il reconnaît le danger, mais pas son péché. Il dit que l'Éternel l'a jeté dans l'abîme et que la tempête appartient à l'Éternel. Tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Et c'est vrai, c'est Dieu qui a envoyé la tempête, mais c'est la faute de Jonas. C'est lui qui a provoqué le châtiment de l'Éternel. Mais il l'avoue pas. Puis au verset 5, il dit « Je suis chassé de ton regard ». Il n'était pas chassé, il s'est enfoui. Qui l'a chassé? Il se présente comme victime, n'est-ce pas? En fait, toutes ces poèmes, c'est très semblable au psaume de souffrance d'un innocent. Il y en a pas mal de David où il se plaint à l'Éternel dans les situations de souffrance. Ne pas à cause d'avoir fait mal, mais il est innocent, mais il souffre, comme Job aussi. Dans ce genre de psaume, c'est un appel à la justice de l'Éternel d'agir pour restituer la justice. Jonas se présente comme un innocent. Il présente le danger, la menace à la vie, mais il ne reconnaît jamais sa faute. Par contre, il se présente comme un homme de piété, comme un homme juste. Verset 5, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Il parle avec la confiance d'un homme juste. Il a confiance en le salut de l'Éternel, mais sur quelle base? Il présume sur le salut de l'Éternel sans admettre sa faute. L'Éternel me pardonnera car je suis hébreu. Je suis d'Israël, le peuple choisi de l'Éternel. C'est sûr. En fait, sa confiance n'est pas du tout en l'Éternel. C'est en lui-même. Verset 8. Comme mon âme était abattue en moi, toujours victime, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Il est si juste que sa prière pour arriver dans le temple de l'Éternel, même du fond de la mer. En plus, c'est Jonas qui a fait l'initiative de son propre salut. Il est le héros de ce texte. Il reconnaît les dangers, mais pas son péché. Il finit son poème avec une affirmation qui est vraie, mais qui est vide de sincérité. Verset 9. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance et loin de la bonté. C'est une affirmation vraie. C'est vrai que ceux qui suivent des idoles ne profitent pas de la bonté de l'Éternel. C'est une bonne théologie, mais c'est vide. C'est correct, c'est orthodoxe, mais c'est vide. Jonas y fait référence aux marins. Il se compare avec les marins. D'après lui, les marins, eux qui crient à leurs petits dieux, leurs idoles, sauf qu'ils ont fait ce que Jonas refusait de faire. Souvenez-vous d'hier, Jonas n'a pas crié à l'Éternel dans le bateau. C'était les marins qui se sont adressés à l'Éternel. C'était les marins, les idolâtres, ils ont crié à l'Éternel avec humilité, qui leur permettent de dire « En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Ils ne font pas partie du peuple de l'Éternel. Ils ne connaissent pas la théologie correcte, mais ils se sont humiliés en crainte en criant au secours à ce qui a fait la mer et la terre. La réponse des marins dans cette détresse est une accusation contre la fausse confiance de Jonas. Ce qu'on attend de ce chapitre est un changement chez Jonas, une sorte de repentance, mais on ne le trouve pas. Pour un exemple de repentance, on pourrait dire l'exemple par excellence, en forme de psaume, c'est un psaume 51. Vous pouvez ouvrir cette psaume parce qu'on va lire tous ensemble. Verset 1, au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Voilà le contexte du psaume. David a commis adultère avec une femme, puis il a fait tuer son mari pour couvrir son péché. Puis le prophète Nathan lui a confronté avec ce qu'il a fait, et voici la réponse de David, à partir de verset 3. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Comme ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre tes chants d'allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se réjouissent. Détends ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, j'en t'aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Donne ta grâce. Fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà un modèle de repentance. L'humilité de David est bien claire tout au long du psaume. Verset 3, il commence avec un résumé encore. Fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Et puis, il vraiment reconnaît ses péchés. Versets 5 et 6. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Il sait qu'il faut faire quelque chose, que Dieu doit faire quelque chose pour lui changer. Il y a un péché contre lui et Dieu. Donc verset 9, il demande une purification. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Il sait qu'il y a quelque chose entre lui et Dieu. Mais il sait qu'il y a quelque chose au fond qui doit changer aussi. Verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il veut avoir un cœur qui peut choisir le bien. Et sait, il sait aussi que c'est seulement l'Éternel qui peut le faire, qui peut changer ce cœur pour être un cœur pur. La prière de Jonas devient encore plus ironique à côté de ce psaume de David. C'est quoi la réponse de l'Éternel à Jonas? Le chapitre finit avec verset 11. L'Éternel parlera au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est comme l'Éternel ne peut plus supporter l'hypocrisie de Jonas. Il ne supporte plus cette fausse piété au point que le poisson doit le vomir. En anglais, on peut dire « I can't stomach it anymore ». C'est-à-dire, je ne peux plus supporter, mais dans le sens que je ne peux plus garder dans mon estomac, je dois le vomir. Est-ce que ça, c'est la réponse de Dieu face à cette hypocrisie? Et donc, à la fin de ce chapitre, on pose la question, pourquoi ce chapitre? Qu'est-ce que ce chapitre ajoute au livre? Parce qu'on a déjà les faits sans ce chapitre-là. On a les détails dans les autres chapitres des événements qui se sont passés. Dans ce chapitre, on a un aperçu aux pensées de Jonas. Comment il a réagi dans sa situation? Il a l'apparence d'être juste. Il a la semblance d'être un homme de piété, mais les apparences sont trompeuses. Quand on creuse les textes, on voit plus clairement l'intention de Jonas l'auteur. Rappelez-vous qu'il y a deux Jonas. Il y a Jonas le personnage, il y a Jonas l'auteur du texte. Pourquoi Jonas l'auteur du texte a-t-il présenté Jonas le personnage comme ça dans ce chapitre? C'est une bonne question. En fait, je trouve rigolo versets 5 et 8, plein d'ironie. Les premiers lecteurs aussi, j'imagine qu'ils rirent à Jonas, le personnage, pour sa folie. Mais en riant, ils se rendent compte à quel point ils sont similaires à Jonas. Jonas, l'auteur, présente Jonas, le personnage, comme ça, probablement parce qu'il avait ses pensées à ce moment-là. Mais l'effet de présenter Jonas le personnage d'une telle façon, l'effet de remettre en question comment les Israélites voient l'Éternel. Présument-ils qu'ils sont justes devant l'Éternel seulement parce qu'ils font partie du peuple de l'Israël, comme Jonas à l'époque? Mais en même temps, ils ont deux veaux d'or dans les deux côtés du pays. La louange est pour les idoles en Israël. C'est les gens d'Israël qui sont les idolâtres. Ils ont rejeté l'alliance de l'Éternel. Quand Jonas dit au verset 9, « Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance et loin d'eux la bonté. » D'un premier coup, on pense qu'il parle des marins. Mais en fait, dans l'histoire, Jonas, le personnage, il parle des marins. Mais Jonas, l'auteur, ici, il parle d'Israël. Les idoles règnent en Israël. Ils ont abandonné l'Éternel et son alliance. Les Israélites peuvent reconnaître la bonne théologie. Les idolâtres sont loin de la bonté de l'Éternel. Ils sont d'accord avec ça. Mais pour eux, c'est une théologie sans relation avec l'Éternel. Une théologie correcte, mais pas une théologie qui les amène à une telle repentance comme David. Ça force les premiers lecteurs à examiner leur cœur pour ne pas avoir un cœur d'hypocrisie. Cette réflexion doit les pousser même à suivre l'exemple des marins en disant à l'Éternel, « Tu fais ce que tu veux ». Ce texte nous force aussi de poser ces questions. Pour Israël, c'était la présomption d'être juste parce qu'il faisait partie d'Israël. C'est quoi pour nous? Est-ce qu'on présume qu'on est juste, on a une bonne relation avec Dieu parce qu'on fait partie du GBU? Mais je suis responsable du groupe. Alors, parce qu'on fait partie d'une église, mais même de l'équipe de louanges, il y a certains qui le pensent. Il y a même des gens qui supposent qu'ils sont chrétiens parce que leurs parents sont chrétiens. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie devant Dieu. On ne peut pas faire semblant pour que les autres pensent bien de nous. Parce que Dieu, il voit notre cœur. Il s'intéresse à notre être et comment on s'approche de lui. Avec présomption, avec des fausses semblances ou avec l'humilité, avec une vraie dépendance de lui. On a vraiment l'occasion cette semaine de nous poser cette question, vraiment au fond de notre vie avec Christ. À quel point est-ce que je présume sur mon identification en tant que chrétien? À quel point est-ce que je préfère de présumer au lieu de vivre une vie caractérisée par repentance? Comment je peux vivre avec une vraie dépendance de Dieu? Pour Jonas, il a pu dire toutes ces affirmations correctes, il a pu connaître la théologie, mais sans avoir un impact sur son cœur. Pour nous, on apprend plein de choses cette semaine. On apprend beaucoup de théologie. Est-ce que ça se transforme en croyance? Est-ce que ça se transforme en action? Il faut prier Dieu, car il est le seul capable de le faire. Prions. Notre Père céleste, tout comme David dans le psaume, nous reconnaissons notre culpabilité, notre nature pécheresse devant toi. Nous ne voulons pas être comme Jonas, le personnage, qui a présumé sur ton salut. Nous savons que tu vois notre cœur qui ne te suit pas fidèlement. Mais tu es riche en miséricorde, tu es plein de grâce. Purifie-nous donc avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous avec le sang de Jésus et nous serons plus blancs que la neige. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé pour que nous puissions vivre comme les sacrifices vivants. À ta gloire seule. Amen.